Voilà, bienvenue donc pour notre cours au sujet ce soir de l'Église et la communion des saints. Comme vous vous en doutez, c'est la suite logique du credo et c'est surtout logique puisque nous avons vu les dernières fois le mystère de l'incarnation et après avoir vu notre Seigneur, eh bien nous allons prolonger en fait, si on peut dire, la vie de notre Seigneur ou la personne de notre Seigneur qui se transforme, qui devient l'Église catholique, puisque vous savez, comme le dit Bossuet, hein, qu'est-ce que l'Église? C'est justement Jésus répandu et communiqué dans le monde entier. C'est ça l'Église catholique. Jésus continue et répandu. Et donc, après avoir dit ça, bien en fait, on a quasiment tout dit. Tout est contenu dans cette définition. Notre définition encore plus simple, donnée par Sainte Jeanne d'Arc face à ses adversaires, hein, qui répond « Il me semble que Jésus et l'Église, c'est tout un. » D'accord, c'est tout un, c'est la même chose. Et elle avait parfaitement compris toute la théologie de l'Église, elle qui ne connaissait, je crois, ni A ni B, et bien grâce au Saint-Esprit, elle a pu répondre cette grande formule donc, qui a traversé le temps et jusqu'à nous. Alors voyez-vous, notre Seigneur, après être remonté au ciel, eh bien, va pourtant rester parmi nous, sous l'Eucharistie, bien évidemment, par la grâce aussi, mais par une présence qu'on appelle mystique, le corps mystique de Jésus, c'est l'Église. Encore une définition qu'on peut garder. Et donc, Jésus, sur la terre en tant qu'Église catholique, continue à rendre gloire à Dieu et à sauver les âmes. C'est tout le but de l'Église catholique, d'amener les âmes au ciel. Et l'Église est depuis donc 2000 ans est fidèle à cette vocation, à cette mission d'amener les gens donc au bon Dieu, ce face à face. Notre Seigneur nous l'avait dit, hein, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On pense très vite à l'Eucharistie et on a raison, bien sûr. Mais n'oubliez pas cette grande réalité du corps mystique de notre Seigneur, qui est une réalité mystique, c'est-à-dire on est dans le plus que le mystère. Oui, il y a un côté un peu mystique, ça fait toujours un peu peur, ça fait un peu toujours un peu nuage, oui. Mais il faut pas trop s'arrêter à s'en va. On va mieux comprendre. Alors, oui, notre Seigneur n'a pas voulu que nous nous sanctifions tout seuls. N'a pas voulu que nous atteignions Dieu juste par une relation justement nuageuse entre nous et le bon Dieu. Il a voulu que nous nous sauvions dans une société et par une société. Et ça, beaucoup de monde aujourd'hui ne le comprend pas, notamment les protestants qui ont rejeté l'Église catholique, et aussi beaucoup de chrétiens, disons, qui veulent faire un peu leur salut à leur sauce, sans passer donc par les sacrements, entre autres, en oubliant toute autorité aussi, parce qu'évidemment, c'est plus facile de faire sa religion à sa carte, plus facile ou pas, ça dépend de ce qu'on entend par se sauver. Sauf que rappelez-vous qu'on est sauvé que par Jésus, hein, le « je suis la voie, la vérité et la vie », et notre Seigneur, eh bien, c'est l'Église. Donc nous sommes sauvés uniquement par l'Église. Hors de l'Église, point de salut, nous le méditerons un petit peu par la suite. Alors, vous voyez, l'Église, déjà, bien comprendre que elle a été fondée par notre Seigneur, et donc c'est une des premières raisons pour laquelle on en a besoin, et pourquoi elle existe, fondée par Jésus. La deuxième raison pour laquelle elle est nécessaire, l'Église catholique, cette société, c'est parce que nous sommes incarnés et que nous atteignons l'invisible par les choses visibles. Dans beaucoup d'oraisons à la messe, secrète ou post-communion, il y a souvent cette alternance entre vous voyez, l'invisible par le visible, etc. Parce qu'on est incarné, on a besoin des choses qui puissent répondre à nos sens. Eh bien, on a besoin de cette société bien visible, on va le revoir. Attention, le côté se sauver grâce à une société n'enlève pas du tout l'importance de notre rapport personnel avec le bon Dieu. Hein. Tu as du prix à mes yeux, voilà, je connais ton prénom, on a un rapport personnel avec le Seigneur, ça c'est fondamental, mais la société va nous aider à entretenir ce rapport personnel. Pardon. Alors, il est important à notre époque de parler de cette vérité de foi, qu'est l'Église, déjà pour nous-mêmes, parce que sans doute ne pensons-nous pas assez souvent que nous sommes en communion, c'est un mot qui est un peu réservé aux autres, mais pourtant il faut le dire, on est en communion avec, allez, quasiment 1 milliard de chrétiens baptisés, il me semble, sur la terre. Et ce qui nous relie, c'est bien la communion des saints. Cette communion des saints, elle a un lien qui nous relie aux autres, qu'on appelle la charité. Et ça nous relie avec l'Église triomphante, qu'est le ciel, l'Église, toute l'Église souffrante, qu'est le purgatoire, et l'Église militante, que sont tous les chrétiens sur terre. Et oui, ce lien que nous avons, mais il faut en vivre et avoir un grand respect et un amour filial envers l'Église catholique. Et peut-être que, vous voyez, on n'y pense pas assez. Et ça se médite, tout cela, cette appartenance à cette immense famille qui est la société, qui est l'Église catholique. Déjà, bon, pour nous, l'étudier, et ensuite pour pouvoir en parler et faire comprendre au monde sa nécessité, et cela jusqu'à la fin du monde. Hein, elle a les paroles, elle a les paroles de la vie éternelle. Elle a les promesses, pardon, elle a les promesses de la vie éternelle. Alors, avançons, et voilà la définition plus, disons, théologique de l'Église, même si c'est pas très compliqué, c'est la même que nous voyons, vous voyez, avec les cinquièmes ou en sixième, je ne sais plus, l'Église, c'est la société de tous les chrétiens, fondée par Jésus, donc c'est une société fondée par notre Seigneur, gouvernée par le pape et les évêques unis au Saint-Père. Voilà, c'est tout simplement ça, l'Église catholique. Société de tous les chrétiens, fondée par notre Seigneur, gouvernée par le pape et par tous les évêques unis au pape. Retenons deux éléments très importants. C'est une société visible. Mais attention, on va voir, ce n'est pas uniquement une société visible. Elle a aussi un aspect surnaturel. Et c'est pour ça, et je vous le dis déjà maintenant, l'Église, c'est une vérité qui est une vérité de foi. C'est pour ça qu'on dit ça dans le credo. Je crois en la Sainte Église catholique. Alors vous me direz, pourquoi c'est une vérité de foi, puisque l'Église, on la voit de nos propres yeux? Eh bien, parce que justement, ce n'est pas simplement une société visible. C'est une société qui est aussi donc surnaturelle. D'où la nécessité de la foi pour pouvoir adhérer à l'Église en tant qu'elle est une société surnaturelle. C'est important, ça. Nous le disons tous les dimanches, ou même dans notre chapelet tous les jours, dans notre credo. Tout d'abord, une société visible, hiérarchique, organisée. On appelle ça donc un corps, hein, c'est constitué de tous les chrétiens, de tous les humains baptisés. Ça forme un groupe distinct d'autres groupes sur Terre. Ouais, c'est très concret, mais il faut le voir ainsi. On dit que c'est la matière de l'Église. D'accord ? On va distinguer la matière et la forme. La forme, c'est ce qui anime. C'est vrai, on dit que nous, notre corps, c'est notre matière, et l'âme, c'est la forme de notre personne. C'est un langage philosophique, mais c'est important de le savoir. Et donc, la matière de l'Église, ce sont tous les hommes que nous pouvons voir, donc concrètement. Mais cela ne suffit pas pour ne pas résumer l'Église en une grande ONG internationale. Non, elle est beaucoup plus que ça, et elle n'a rien à voir d'ailleurs avec ça, parce qu'elle a une âme, elle est surnaturelle, elle est animée d'un esprit, on le verra tout à l'heure, du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, qui constitue, si vous voulez, sa forme. La matière, ce sont tout ce groupe d'humains, si vous voulez, et son âme, sa forme, ce qui fait que l'Église vit. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Et vous comprenez pourquoi nous avons besoin de la foi pour pouvoir adhérer à ce mystère, pour ne pas la voir simplement avec un regard humain. Alors, trois remarques importantes par rapport à ça, ces deux éléments. Société visible, surnaturelle. La première remarque, c'est qu'il ne faut jamais tomber dans un excès ou un autre. Et en fonction des époques dans l'histoire de l'Église, soit on considérait l'Église catholique comme simplement un corps administratif, vous voyez, une société simplement d'hommes, et c'est un peu l'erreur actuelle. On regarde de nos contemporains, mais même de beaucoup de catholiques aussi, de considérer l'Église, comme je vous disais, dans une ONG ou une œuvre humanitaire. L'Église fait du bien au monde. On parle beaucoup de ce côté, c'est pas de la charité, c'est une sorte de fraternité un peu horizontale. Et c'est dangereux, parce qu'on se trompe sur ce qu'est l'Église, d'accord ? Cette erreur, c'est un peu comme quand vous êtes à l'extérieur d'une église, eh bien, on ne comprend pas les vitraux. Il faut rentrer dans l'église pour comprendre ce que sont les dessins donnés par le vitrail, voyez-vous. Eh bien, quand on est en dehors de l'église, c'est-à-dire quand on n'a pas la chance d'avoir la grâce, d'avoir la foi, Eh bien, on est en dehors et donc on ne voit pas bien ce que c'est. Mais les portes sont ouvertes et donc il faut rentrer. Et là, on comprend réellement quel est ce mystère de l'Église catholique. Donc, premier travers, c'est de considérer qu'elle est juste un corps administratif. Le deuxième travers, qui est moins à la mode, mais ça a existé, de considérer l'Église uniquement comme une société spirituelle. Et c'est l'erreur des montanistes, ces gens qui se considéraient un peu comme parfaits, comme saints. On n'a plus besoin d'autorité, on n'a plus besoin de hiérarchie, on n'a plus besoin de toute cette pompe, etc. Notre rapport, il est personnel avec Dieu. Ça, c'est un peu comme les protestants, si vous voulez. Donc, vous voyez, il faut bien garder les deux, puisque les deux ne font qu'une seule substance qu'on appelle l'Église catholique. Donc, société visible, surnaturelle. La deuxième remarque, c'est que pour bien comprendre ce qu'est l'Église, on va faire un tout petit peu de philosophie, mais d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça sert aussi pour autre chose, ce qu'on va dire. Vous savez qu'en toute chose, une société, un objet, une personne, eh bien Aristote dit que toute chose a quatre causes. Quatre causes. Je vais vous donner l'exemple d'une société de gens qui jouent à la pétanque. Vous voyez, une société comme ça. Prenez ce club de pétanque. Eh bien, ce club de pétanque a quatre causes. La première cause, on appelle ça la cause matérielle. Donc, c'est tous les hommes qui constituent ce club. D'accord ? Cause matérielle. Vous pouvez prendre une statue. La cause matérielle, c'est le marbre, par exemple. Voyez. En toute chose, vous avez une cause matérielle. Dans ce club de pétanque, restons à la pétanque, et vous avez une cause formelle. La cause formelle, ce sont un peu pourquoi les gens se réunissent entre eux. Qu'est-ce qui les unisse? La forme de ce club, ce sont des pétanqueurs, si vous voulez, des joueurs de pétanque. Troisième cause, on appelle ça la cause efficiente. Vous voyez, celle qui a fait ce club, qui a créé ce club. Cause efficiente, c'est la cause qui fait que. Eh bien, c'est, Monsieur X qui, justement, a réuni tous les joueurs de pétanque pour faire ce club. Et la cause finale, c'est pourquoi y a-t-il un club? Ça rejoint un petit peu la cause formelle, mais il y a une petite distinction. Cause finale, c'est le but, d'accord, de ce club. C'est de jouer à ce jeu. Bref, j'espère que vous avez compris ces quatre causes. C'est très simple et ça s'applique en toute chose. Vous pouvez faire l'exercice, vous amuser avec toutes sortes de choses et de trouver cause donc matérielle, formelle, cause efficiente et la cause finale de toute chose qui nous entoure et même de nous, êtres humains. Alors, on va l'appliquer évidemment à l'Église catholique pour bien comprendre ce qu'elle est. Déjà, cause matérielle. Qu'est-ce qu'est la cause matérielle de l'Église? Évidemment, ce sont, on l'a dit, tous les hommes baptisés, attention, baptisés avec le sacrement, donc le baptême d'eau. On ne considère pas, vous voyez, les gens baptême de sang ou baptême de désir, on en parlera tout à l'heure, comme étant membres de l'Église catholique. Attention. Là, on parle simplement, la cause matérielle, ce sont donc le groupe d'hommes qui est baptisé avec le sacrement. Cause formelle, il ne suffit pas d'être baptisé, car il y en a, vous voyez, qui ont abandonné la foi. Et ceux qui ont abandonné la foi de manière volontaire ne font plus partie de l'Église catholique. C'est important, ça. Donc, la cause formelle, la réalité, si vous voulez, qui forme l'Église, c'est la foi. C'est la foi. Il faut vous enlever la foi dans l'Église, il n'y a plus d'Église catholique. Bon, c'est la cause formelle. La cause finale, retenez bien ça aussi, parce que ça permet de bien voir l'Église, tous les travers qu'elle a. Quel est son but? Quelle est la fin de l'Église? C'est la vie éternelle, c'est le ciel. L'Église, prenez l'image de l'arche de Noé, qui sauve la famille de Noé à travers les eaux. L'Église, c'est cette grande arche qui nous amène au ciel, et c'est sa cause finale. Vous me direz qu'elle a rendu plein d'autres services aux civilisations. Depuis 2000 ans, c'est assez incroyable. C'est très vrai, on appelle ça la chrétienté. Vous voyez, l'Évangile qui s'incarne dans les sociétés et donc qui fait du bien humainement. C'est la conservation aussi de la loi naturelle. Mais le premier but de l'Église, ce n'est pas un côté humanitaire ou faire des hôpitaux ou des asiles ou des écoles. Le premier but, c'est le paradis. Et parce qu'on doit amener les hommes au ciel, alors on va construire des écoles, des hôpitaux, des missions, etc. Pour le premier but, Cause finale, la vie éternelle. Et enfin, la cause efficiente, c'est-à-dire qui donc a fabriqué, constitué cette société, vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Hein. Et la cause efficiente qui fait que l'Église tient, bien, c'est cette autorité que Jésus a transmise à Saint-Pierre et à ses successeurs, et c'est pour ça que l'Église peut tenir pendant ce temps qui est assez... Humainement, c'est impossible, vous voyez. On connaît bien l'histoire de ce cardinal qui répond à Napoléon, je crois, qui voulait détruire l'Église, et le cardinal lui répond « Les prêtres ont essayé de détruire l'Église, ça fait 2000 ans qu'ils essayent, ils n'ont jamais réussi. Alors, c'est pas vous qui allez réussir. » Il y a un côté extrêmement... Il y a un côté divin, vous voyez, dans le fait qu'elle existe encore aujourd'hui et qu'elle continue sa mission, encore une fois, qui est de transmettre notre Seigneur au monde pour amener le monde au ciel. Voilà le but de l'Église. Tout le reste, c'est important, mais vous voyez, il faut le mettre à sa place. Voilà donc pour cette deuxième remarque, les quatre causes, on comprend mieux donc ce qu'est l'Église. Troisième remarque importante, vous savez qu'il n'existe que trois sociétés sur Terre qui est fondée directement par Dieu. Il n'y a que trois sociétés qui sont fondées directement par Dieu. Toute autre entreprise, toute autre société sont fabriquées, instituées par l'homme. Prenez n'importe quelle entreprise, eh bien, voilà, un chef d'entreprise qui l'a fondée. Eh bien, quelles sont ces trois sociétés? C'est important à savoir. La première, évidemment, c'est la famille. Société naturelle, la société conjugale, qui est une société, nous disons, imparfaite. Non pas parce que les parents sont imparfaits, pas du tout. Elle est imparfaite parce qu'elle ne peut pas réaliser toute seule sa fin, qui est justement d'avoir des enfants et de les éduquer, et le soutien mutuel des époux. La famille a besoin de la société. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle société imparfaite, et c'est absolument pas péjoratif. C'est juste le terme comme ça. Et donc, vous voyez, elle est voulue directement par Dieu, cette société. C'est pour ça que quand on s'attaque à la famille, on s'attaque à Dieu directement. Bon. La deuxième société voulue par le bon Dieu, c'est la cité, l'État. Hein, parce que le bon Dieu ne nous a pas créés pour être des ours dans notre caverne, vivre tout seul. Nous sommes des êtres sociaux. C'est pour ça qu'on parle, entre autres. Et donc, il a fondé la société avec un but qui est le bien commun. Un bien commun. Le but des chefs d'État, eh bien, c'est d'entretenir, de favoriser le bien commun pour tous, qui est supérieur au bien particulier. On a tous des biens particuliers. Le bien commun de tous est supérieur. Et ça, c'est voulu par le bon Dieu. Parce que nous sommes... voilà, l'homme est un être social. Et saint Paul va jusqu'à dire « Ceux qui luttent contre la société s'acquièrent à la damnation. » Oui. Ceux qui ne veulent pas vivre en société, donc les anarchistes, vous voyez, ni Dieu ni maître, etc., ben c'est contre nature, en fait, parce que nous sommes faits pour vivre dans une cité. Alors après, on vit en 2022, dans la cité que nous avons, d'où notre devoir d'État de prier, et même certains d'être en politique, etc., chacun à sa place. Voilà. La cité est une société parfaite, parce que par elle-même, elle peut réaliser sa fin, qui est d'établir le bien commun. Elle a tout, la cité a tout pour pouvoir établir ce bien commun. Enfin, la troisième société voulue par le bon Dieu, vous en doutez donc, l'Église catholique. Société non plus simplement humaine, mais aussi surnaturelle. Elle est aussi, alors les gens n'aiment pas trop qu'on le dise, mais elle est aussi une société parfaite. Parce qu'elle a tout, absolument tout, et même en surabondance, pour réaliser sa fin qui est d'amener les âmes au ciel. Elle a tout, elle n'a pas besoin de l'État, elle n'a pas besoin de la famille, enfin si, parce que sinon il n'y aurait plus beaucoup d'adorateurs au ciel, mais où est-ce que je veux dire ? Société parfaite. Alors, après ces trois petites remarques, voyons un peu plus en détail eh bien, les composantes de l'Église. Je vous ai donné la définition. Voyons maintenant de quoi est composée l'Église catholique. Tout d'abord, voyons le corps de l'Église. Je vous parlais tout à l'heure de la matière. Eh bien, ce sont tous les chrétiens qui sont unis à l'Église par, attention, par trois liens concomitants. Il faut avoir tissé trois liens avec l'Église pour pouvoir être dans l'Église. Et s'il en manque un, on le verra tout à l'heure, eh bien on est en dehors de cette société. Le premier lien, il faut avoir reçu le sacrement de baptême, c'est quelque chose de visible, vous voyez, le baptême d'eau. C'est pour ça que le baptême de désir, qui existe, hein, il y a beaucoup de personnes, espérons-le, qui désirent Dieu et implicitement qui désirent le ciel, on dira, font partie de l'Église, mais font partie de l'âme de l'Église, et non pas du corps de l'Église. Il y a une nuance, vous voyez. Pour faire partie du corps de l'Église, il faut avoir reçu un sacrement, et un sacrement, c'est quelque chose de visible. Donc, premier lien, le sacrement, le baptême d'eau. Deuxième lien, c'est ce qu'on appelle la profession de foi, non pas la communion solennelle, qui n'est pas un sacrement, etc. Quand on dit profession de foi, ça veut dire que c'est bien d'avoir été baptisé, mais encore faut-il vivre de sa foi et professer sa foi. Quelqu'un, vous voyez, qui aurait la foi, mais qui ne la professe jamais par une prière, ou par son assistance à la messe, ou par une discussion, est-ce qu'il a vraiment la foi ? Saint Paul dit, on croit dans son cœur, pour parvenir à la justification, ça veut dire pour être sauvé, on croit dans son cœur pour être justifié avec le bon Dieu, mais c'est la confession de la bouche qui fait le salut, en fait, oui. Vous voyez, ça commence dans le cœur, mais ça ne suffit pas. C'est aussi la confession par la bouche qui fait le salut. Bon. Donc c'est le deuxième lien avec l'Église, c'est qu'il faut professer sa foi. Et c'est pour ça que nous continuons le catéchisme, c'est pour pouvoir plus connaître Dieu, l'aimer et aussi le donner à notre monde. Pensez un peu à un musicien qui ne jouerait absolument plus de son instrument, ben, on appellerait plus ça un musicien. Et ben, c'est pareil pour un chrétien. Il est baptisé, mais s'il ne professe pas sa foi, on ne peut pas dire qu'il est chrétien. Les pratiquants, non pardon, les croyants non pratiquants, qu'est-ce que ça veut dire ? Troisième lien, il faut reconnaître l'autorité hiérarchique dans l'Église et la respecter. C'est le troisième lien avec donc, cette société hein, qui est important parce que cette hiérarchie et cette autorité a été instituée par notre Seigneur lui-même, protégée par le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, et ce lien filial, ce lien de, j'allais dire, de soumission filiale est nécessaire pour pouvoir faire partie de l'Église. Attention, il y a des nuances. Il faut reconnaître l'autorité, la respecter. Après, au niveau de l'obéissance, vous voyez, là, il y a des degrés. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Reconnaître qu'il y a une autorité, la respecter. Voilà. Une petite remarque. Autrefois, on pensait qu'il fallait être en état de grâce pour pouvoir faire partie de l'Église catholique. Donc, l'Église était en fait comme un grand moulin. Vous voyez, on entre, on sort en fonction de nos confessions. Non, il n'y a pas besoin d'être en état de grâce pour faire partie de l'Église. Quelqu'un qui est en état de péché mortel, elle est bien présente dans l'Église, mais elle est comme un membre abîmé, il y a une sorte de violence. Vous voyez ? Donc il faut qu'elle retrouve la grâce rapidement. Voilà donc pour le corps de l'Église. D'accord ? Il y a un côté visible. Maintenant, l'âme de l'Église, je vous l'ai dit tout à l'heure, cet esprit qui anime le corps, c'est le Saint-Esprit lui-même, on en parlait le mois dernier, la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même, qui fait que l'Église se différencie de toutes les autres sociétés. Il y a vraiment quelqu'un derrière, ou plutôt quelqu'un dedans, de l'intérieur, qui anime toutes les composantes de l'Église, eh bien, c'est le Saint-Esprit. En d'autres mots, la charité. Vous voyez, Saint-Esprit, la charité, la grâce, tout ça, c'est un peu les mêmes réalités, hein, et qui nous unit. Alors justement, quel jour a été fondée l'Église ? On comprend que c'est bien le jour de la Pentecôte où l'Église catholique, disons, est passée à l'acte. Elle était en puissance avant. Tu sais, quand quelqu'un est en puissance, c'est-à-dire la fleur du pommier, elle est en puissance d'être une pomme, vous voyez, mais elle n'est pas encore en puissance et après on est en acte. Eh bien, l'Église était en puissance d'être l'Église et elle passe à l'acte le jour de la Pentecôte. Tout était prêt. Il ne manquait plus que l'âme pour pouvoir animer toutes ces composantes justement. Donc le jour de la Pentecôte où les apôtres, Saint-Pierre va faire son premier sermon en ouvrant les volets, en montant sur son balcon et en baptisant, je ne sais plus, 5000 juifs, ou en tout cas pas juifs forcément, mais les personnes qui étaient présentes, 2000 ou 5000, il faut relire les actes des apôtres. Voilà, pensons souvent à ça dans notre méditation sur l'Église. Le Saint-Esprit est là, il veille Dieu lui-même. Et justement, ça permet de comprendre cette promesse de la vie éternelle, hein, jusqu'au bout. Parce que le Saint-Esprit ne quittera absolument jamais la Sainte Église. Voilà. Alors, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, l'Église est bien un mystère de foi. Il faut la vertu de foi pour pouvoir y adhérer, parce qu'on voit le corps, mais sans la foi, on ne peut pas comprendre l'âme. Quel esprit saint ? Alors voyons maintenant cette question un peu délicate, enfin délicate non, mais importante, qui justement est membre de l'Église proprement dit. Il y a toujours cet adage qui pose question et qu'on veut un petit peu mettre de côté et un peu pas toujours prendre dans l'absolu. Hors de l'Église, point de salut. Est-ce que nous pouvons le dire ou est-ce qu'il y a des exceptions ? Eh bien, essayons de répondre un peu. Et vous comprenez que c'est une question de vie ou de mort. De vie éternelle ou de mort éternelle. Parce que pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Jésus veut qu'on passe par l'Église. Donc, qui fait partie de l'Église catholique ? Rappel aussi, important, l'Église est composée, donc vous le savez, de trois... J'aime pas dire trois parties parce que ça fait un peu les choses qui sont... séparer les unes des autres, mais trois domaines, trois états plutôt. L'Église donc militante, que nous sommes sur la terre, nous combattons, on appelle ça le combat spirituel pour atteindre le ciel. L'Église souffrante, les âmes du purgatoire, qui sont parfaitement chrétiennes, qui sont sûrement plus chrétiennes que nous, hein. Elles font peut-être même plus partie du corps mystique que nous, par leur purification. Et enfin l'Église triomphante, donc tous les saints, tous les anges font partie de l'Église. Il faut développer notre dévotion envers eux, nos amis du ciel. Et donc, vous voyez, il ne faut pas séparer ces trois églises. Il y a une seule Église, mais en trois états différents. Et qu'est-ce qui nous relie ? C'est bien la communion des saints, cette charité. Et on est plus proche d'eux, plus proche des âmes du purgatoire, plus proche des saints, que d'une personne qui n'est pas dans l'Église. Même si c'est notre voisin de palier, on est plus proche avec ceux qui font partie de l'Église catholique. Et c'est pour ça que nous devons entretenir un lien profond. Et ça aide dans le quotidien, ça nous soutient, ça nous porte. Pensons souvent à ça, la communion des saints. Nous en faisons bien sûr partie. Alors après avoir dit tout ça, qui ne fait pas partie de l'Église ? Il faut... délimiter, non pas pour exclure des gens, mais pour distinguer. Et justement, quand on a bien délimité les frontières, on peut alors comprendre pourquoi il faut aller chercher les âmes pour les faire rentrer. Parce que si tout le monde est dans l'Église, si tout est flou, et ben alors ça sert à quoi d'avoir le baptême, de prononcer sa foi et de respecter l'autorité ? Bon. Alors, premièrement, ceux qui ne font pas partie de l'Église, on les oublie peut-être un peu, mais ce sont toutes les âmes damnées, l'enfer, bien sûr. Dès leur mort, avec ce refus de Dieu, elles sont damnées pour l'éternité, elles ne font plus partie de l'Église catholique, il n'y a plus de communion des saints, on ne peut plus prier pour elles, il n'y a absolument plus rien, c'est fini, et pour toujours. Ensuite, c'est en fonction des trois liens dont je vous parlais tout à l'heure. Baptême d'eau, la profession de foi et le respect de l'autorité. Alors tout d'abord, ceux qui n'ont pas le baptême d'eau, on appelle ça les infidèles, les païens, les paganus, je crois. Les apôtres ont commencé à évangéliser dans les villes, parce que c'est là où il y a le plus de monde, et le paganus, c'était les gens de la campagne qui n'avaient pas encore la foi. Et donc ce terme est resté, c'est pas du tout péjoratif. Le païen, c'est celui qui n'a pas la foi et qui n'a pas la possibilité de l'avoir. Attention, voilà. Donc lui ne fait pas partie du corps de l'Église. Ensuite, les apostats. Les apostats, c'est ceux qui ont eu la foi, qui ont été baptisés, qui ont eu la foi, et qui ont rejeté cette foi. Il n'y a pas la deuxième condition, le deuxième lien, qui est cette profession de foi. On appelle ça un apostat. Il faut bien prier pour eux parce qu'ils ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé, comme nous d'ailleurs. Mais oui, quelquefois, il vaut mieux être païen qu'apostat. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la grande question qu'on nous pose souvent, pourquoi vous ne baptisez pas tel bébé d'une famille païenne, justement, ce bébé, il serait sauvé, etc. Oui, mais s'il est baptisé et sans éducation chrétienne, eh bien, il peut devenir apostat. Alors que s'il n'est pas baptisé, vous voyez, c'est délicat, tout ça. Bon. Que le Saint-Esprit nous éclaire un peu. Troisième personne qui ne font pas partie de l'Église, les hérétiques. Les hérétiques, donc pareil, on est dans ce deuxième lien. Ils ne professent pas la foi. Pourquoi ? Parce que, vous savez, hérétique en grec, c'est choisir. On choisit une partie du credo. Et on en fait même peut-être un absolu. Et en fait, on fait une religion à la carte. Et c'est très à la mode. Vous savez qu'il y a eu des sondages aujourd'hui au sujet de la résurrection, par exemple. Ben, il y a 50% qui n'y croient pas, vous voyez. Bon. Ou de l'enfer, 70% qui refusent qu'il y ait un enfer. Ou en tout cas, qu'il y ait des gens en enfer. Des catholiques, hein, qui vont à la messe le dimanche, sûrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on ne peut pas leur dire qu'ils sont hérétiques, mais intérieurement, il y a quelque chose qui est... Il y a un dérèglement, et un hérétique, au fond d'eux, bah oui, c'est une réalité. Quand on choisit et qu'on rejette le reste, nous sommes hérétiques, et donc on ne fait pas partie de l'Église. Alors, il y a des hérétiques qui sont rejetés de manière visible par l'Église. Il y avait des anathèmes, ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais autrefois, beaucoup de personnes donc, étaient condamnées par l'Église et ils pouvaient revenir après rétractation de leurs erreurs. Vous voyez, quelqu'un qui refuse ne serait-ce qu'un iota, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, qu'une petite virgule, en rejetant la petite virgule, en fait, il rejette l'autorité qui nous a donné toutes les vérités de la foi. Et cette autorité, c'est Dieu. Vous voyez, même si on rejette qu'un petit bout, ben, en fait, on rejette Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas choisir à la carte. Quatrième personne qui sont en dehors de l'Église, les schismatiques, c'est ceux donc qui refusent, attention, faut pas se tromper quand on parle des schismatiques, c'est ceux qui refusent le principe de l'autorité. Hein, on conteste l'autorité, pensez aux, vous voyez, aux orthodoxes, ça a été la plus grande déchirure. Dans l'Église, je vous le dirai tout à l'heure, 11e siècle, eh bien, ils ont refusé donc l'autorité papale. Et souvent, quand on est schismatique, eh bien, on tombe dans l'hérésie, on devient hérétique, parce qu'on se coupe de la source. Pas automatiquement, mais ça peut très vite les amener à l'hérésie. Et enfin, les excommuniés, donc c'est ceux qui sont retranchés par l'Église par de fautes graves. Il y a des excommunications latae sententiae, c'est-à-dire une excommunication qui tombe d'un coup. Pensez à quelqu'un qui avorte, qui est catholique, qui sait que l'avortement est lié à une excommunication, elle le fait, eh bien elle est excommuniée latae sententiae, tout de suite. Et aujourd'hui, le pape, il y a 3 ans ou 4 ans, a permis à tous les confesseurs, tous les prêtres, de lever cette excommunication simplement par la confession. Alors qu'avant, il fallait voir l'évêque, etc. Voilà, ça, excommunication. Ou alors, il y a des excommunications beaucoup plus, disons, formelles. Ça arrive encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, il faut distinguer, non pas pour exclure, mais pour justement vouloir faire rentrer le maximum d'âmes pour qu'il y ait plus qu'un seul troupeau, parce que l'Église est pour tout le monde. Et il ne faut pas s'enorgueillir, parce que, comme dit saint Paul, hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Si nous faisons partie de l'Église catholique, c'est une grâce. Et il faut être en action de grâce, justement, et surtout, demander la force d'y rester, hein, par ces trois liens. Le baptême d'eau, bon ça va. La profession de foi, ça se travaille tous les jours. Et le respect de l'autorité et l'adhésion à l'autorité. Alors, on n'a pas répondu à la question « Hors de l'Église, point de salut ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, rappelez-vous que cette phrase, qui est assez vieille, hein, c'est une doctrine qui a toujours été soutenue par l'Église, par les papes. C'est de foi. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer entre deux possibilités. Pensez, par exemple, c'est la première possibilité, à une personne qui pourrait croire, qui devrait croire, qui a tout pour pouvoir adhérer à Jésus, et qui refuse, et elle persiste dans son refus. Eh bien, cette personne, justement, donc païenne, mais païenne volontairement, ne fait pas partie de l'Église par son bon vouloir, et donc ne peut pas être sauvée. On le comprend, parce qu'elle refuse. En refusant l'Église, elle refuse notre Seigneur. Et en refusant notre Seigneur, on ne peut pas être sauvé. Donc ça, c'est la première possibilité, vous voyez, un refus catégorique et volontaire. Volontaire. Je sais ce que je refuse. Bon. La deuxième possibilité, on appelle ça l'ignorance invincible. Pensez par exemple à l'Indien dans sa jungle, qui n'a jamais rencontré de missionnaire et qui n'a jamais lu l'Évangile. Eh bien, il ne peut pas accéder aux vérités de l'Église sans faute de sa part. Sans faute de sa part. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, il ne fait pas partie de l'âme, il ne fait pas partie du corps de l'Église, mais il fait partie de l'âme de l'Église. Mais pour cela, attention, il y a quelques conditions. Pour penser à cet Indien qui ne connaît absolument rien, etc., pour qu'il puisse être sauvé, et pour cela, pour qu'il puisse faire partie de l'âme de l'Église, voyons la première condition. Tout d'abord, il faut qu'il croie la chose la plus rudimentaire, c'est-à-dire l'existence de Dieu, de manière un peu implicite, vous savez. Bon, il y a une cause première, quelque chose de transcendant. L'existence de Dieu, de cette chose-là, mais aussi que ce Dieu, on peut l'appeler autrement, eh bien, soit providence. C'est-à-dire que cette chose, un peu supérieure aux hommes, veille sur les hommes et souhaite que cette chose, cet esprit, conduise les hommes à cet esprit, à Dieu. Donc il faut croire tout d'abord l'existence de Dieu et que Dieu est providence. C'est ce que dit l'auteur aux Épîtres, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est intéressant. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur. Vous voyez, c'est ça. C'est la première condition. Et ça, c'est donné. Vous savez, Dieu veut sauver tous les hommes. Et c'est pour ça que le bon Dieu donne sa chance à tous les hommes. Et on appelle ça des grâces actuelles, des petites poussées de Dieu, pour adhérer au minimum à l'existence de Dieu et qu'il soit providence. C'est-à-dire qu'il veille sur les hommes. On appelle ça un début de foi. C'est une foi qui éclaire un peu moins que la nôtre, mais elle éclaire. Oui. Ensuite, il faut donc y croire une certaine providence, je vous l'ai dit, il a un début d'espérance. Il a la foi, un peu de foi, un peu d'espérance, voilà. La deuxième condition, c'est que s'il croit en Dieu et qu'il sait qu'il doit se diriger vers Dieu, eh bien, implicitement, il va vouloir respecter les commandements donnés par Dieu. Comment on appelle ça? On appelle ça la loi naturelle. Voyez, cette loi qui est inscrite dans notre cœur, que tout homme a depuis sa naissance, et qui est éclairée par l'éducation, par la religion. Si la religion ne vient pas détruire cette conscience, c'est un problème. Mais, vous voyez, les commandements, donc tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Le décalogue, en fait, les 10 commandements, c'est la loi naturelle. Gravé dans le cœur d'Adam et Ève, avant d'être gravés sur les 2 tables de la loi. Ils ont été mis sur les 2 tables de la loi pour aider l'homme, parce qu'il était un peu sourd. Et donc Dieu a dit, bon, bah, je vais de nouveau les écrire sur les tables de la loi. Et plus tard viendra les béatitudes avec notre Seigneur. Mais vous voyez, ça c'est la deuxième condition. La première, croire en Dieu et qu'il est providence, foi, espérance. La deuxième condition, c'est donc de pratiquer les commandements qu'il ne peut pas ignorer. Et on appelle ça un début de charité. Eh bien, cet homme, cet Indien dans la jungle, s'il a la charité, eh bien, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne des grâces actuelles pour qu'il puisse adhérer à Dieu providence et respecter ses commandements. Voilà. Et il fait partie, non pas du corps de l'Église, mais bien de l'âme de l'Église. C'est assez... Vous voyez, combien de personnes sur Terre sont dans cet état-là? On n'en sait rien. Il faut prier pour qu'elles soient nombreuses. Et vraiment. Le problème, c'est que, vous en doutez peut-être, il est plus facile d'être païen que d'être dans une fausse religion. Parce qu'il y a beaucoup de fausses religions qui viennent justement abîmer la conscience, et donc la personne ne peut plus pratiquer les commandements donnés par la loi naturelle. Voilà un exemple typique, donc, la religion musulmane, où eh bien, le fait de tuer un innocent, eh bien, c'est possible, et c'est même, ça amène au ciel, ça va contre la conscience. Le fait de mentir, le musulman peut mentir pour se cacher, etc., ça va contre la conscience. Et donc, vous voyez, ça abîme la personne, et donc elle peut de moins en moins se diriger vers Dieu, avec ce qu'on vient de dire. C'est ça qui est délicat. Bon. Vous voyez, l'Église a toujours été missionnaire, et depuis qu'elle a été créée, l'Église a toujours été missionnaire, elle a traversé les océans pour pouvoir évangéliser les terres des pays entiers. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours compris, on a toujours su que nous sommes sauvés par notre Seigneur, et qu'il est difficile de se sauver si on ne connaît pas l'Évangile, les commandements, les béatitudes et tout ce que nous apprenons dans le catéchisme. Bon, alors ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « Oh, c'est bon, les païens, on les laisse tranquilles, ils sont sauvés. » C'est faux. Il est difficile de se sauver. Il est difficile, de, sans la grâce, sans les sacrements, de respecter les commandements et d'aimer Dieu de tout son cœur. D'où l'importance d'être missionnaire. Il faut former les gens pour que les gens aient le salut. Et accès au salut. Et accès au salut. Voyons maintenant un petit peu l'autorité dans l'Église. Qu'est-ce que c'est et pourquoi le bon Dieu l'a-t-il voulu? Pourquoi y a-t-il un pape, en somme? L'Église, vous avez compris, c'est une société donc, qui est visible parce que nous sommes incarnés et qu'on a besoin d'atteindre Dieu invisible par les choses visibles. Donc ça suppose qu'elle est une autorité identifiable. Vous voyez, qu'on mette un visage sur une fonction, si vous voulez. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Qui est le chef de l'Église? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça pour toujours. C'est notre Seigneur. Mais depuis son ascension, notre Seigneur est invisible. Et voilà pourquoi il a institué un homme pour nous aider à justement suivre notre Seigneur. Et cet homme, c'est le pape. Alors, une définition facile du pape, c'est le successeur de Saint-Pierre, le représentant de notre Seigneur et le chef visible de l'Église. D'accord ? Successeur de Saint-Pierre, représentant de Jésus et chef visible de l'Église. Je dis bien visible parce que le chef, c'est notre Seigneur. Alors, cette autorité, rappelez-vous, a été instituée par Jésus lui-même. Et c'est évident dans l'Évangile, ça s'est passé en deux temps. D'abord, c'est très, très, très clair. Tout d'abord, on trouve ça en Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 16. Notre Seigneur était avec ses 12 apôtres à Césarée de Philippe. On est vraiment quasiment à la source du Jourdain. On est quasiment au Liban. Certains le disent, bon, et on peut le croire. Césarée de Philippe, notre Seigneur pose cette question aux apôtres. Que disent les gens de moi? Dites un petit peu et tout. Et puis, bon, voilà. Et Saint-Pierre va dire, enfin, Jésus leur dit, bon, et vous, mes amis, que dites-vous que je suis? Et Saint-Pierre répond, donc, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une profession de foi. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et c'est pour ça, moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc nous sommes encore au futur. Je bâtirai mon Église. Mais Jésus prépare déjà un petit peu psychologiquement Saint-Pierre, oui. Saint-Pierre, grand sanguin, hein. Prépare-toi parce qu'il va t'arriver quelque chose d'un peu lourd. Mais voilà, je bâtirai mon Église sur toi, Pierre. Promesse donc au futur. Quand est-ce que va se réaliser cette promesse? Eh bien, nous sommes le soir de la résurrection, qui est un des plus beaux passages, je crois, de l'évangile. On est dans Saint Jean. Notre Seigneur, vous savez, est sur la plage, il prépare le petit déjeuner, les apôtres étaient en train de pêcher, ils l'ont reconnu, ils arrivent et tout, ils parlent pas trop parce que il y a quelques jours, ils l'ont tous renié, donc ils sont un peu discrets, ils sont un peu intimidés. Et là, Jésus, donc, après avoir déjeuné, c'est à la fin du repas. Jésus est bien élevé. On déjeune et après, on passe aux choses sérieuses. Et Jésus dit à Saint-Pierre, justement, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Première réponse, « Seigneur, oui, vous savez que je vous aime. » Deuxième fois, Jésus lui dit « Paix mes agneaux. » Après, Jésus lui redit « Pierre, m'aimes-tu ?» Deuxième fois, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Paix mes agneaux. » Le verbe « paître ». Conduis mes agneaux. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et l'évangile nous dit, Pierre, peiné que Jésus lui pose pour la troisième fois, lui répond, Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime. Parce qu'il a compris que c'est une réponse au triple reniement. Et surtout qu'aujourd'hui, eh bien, il reçoit la charge d'amener, de diriger. Attention, non pas les brebis de Pierre. Jésus dit, paix mes brebis. Donc l'Église appartient à notre Seigneur, mais il les confie à Saint-Pierre. Attention à cela. Donc la promesse est bien réalisée, et vous avez ici donc les deux textes fondateurs de l'autorité pétrinienne de l'autorité de Saint-Pierre, donc Matthieu chapitre 19 et en Saint-Jean chapitre 21, il me semble, je ne l'ai pas noté, pardon. Donc il faut Saint-Pierre, établi chef des apôtres. Alors vous me direz, très bien, mais cette autorité était donnée à Saint-Pierre, pas à ses successeurs. Eh bien, n'oubliez pas ce que dit notre Seigneur juste avant de s'élever au ciel, « Allez enseigner toutes les nations ». C'est un ordre. Il savait très bien que les apôtres n'allaient pas enseigner la terre entière, qu'ils allaient mourir, et que cet ordre était transmis aux successeurs des apôtres. Et donc que l'autorité était transmise aux successeurs de Saint-Pierre. Alors, comment désigner le successeur de Saint-Pierre? C'est très simple. Le diocèse de Saint-Pierre, c'est l'Église entière, c'est son diocèse. Pourquoi? Parce que on dit que, voilà, en tant qu'évêque de Rome, son diocèse, c'est le monde entier. Et donc, le successeur de Saint-Pierre, ce sera l'évêque de Rome, qui, en tant qu'évêque de Rome, devient évêque du monde entier, du coup, pape. Voilà. Ça se fait par Rome. Bon, je ne m'étends pas. Voyons maintenant les attributions et les pouvoirs du pape. C'est intéressant, ça, par rapport à l'infaillibilité, etc. Attention, les pouvoirs du pape sont en fait les pouvoirs de l'Église. Et les pouvoirs de l'Église sont en fait les pouvoirs de Jésus, les pouvoirs du Christ. Donc le pape n'a de pouvoir que par l'Église et l'Église que par notre Seigneur. Alors quels sont les pouvoirs de notre Seigneur, justement ? Bien, le Christ, par son incarnation, le fait qu'il soit venu sur la terre, a trois pouvoirs. Vous allez vite les reconnaître. Le premier, il a trois titres. Prophète, prêtre et roi. C'est les trois titres qu'on donne à notre Seigneur. Et du coup, ça donne trois pouvoirs que l'Église va avoir et que le pape va avoir et que les prêtres vont avoir. Alors, prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et le Christ, bien sûr, puisqu'il est Dieu, parle au nom de Dieu. Le roi, c'est celui qui gouverne une société. Et le prêtre, c'est celui qui fait le pont entre la terre et le ciel. C'est le pontife entre les hommes et Dieu. Eh bien, ces trois pouvoirs, donc voyez-vous, le fait de parler au nom de Dieu, le fait de gouverner et le fait, du coup, de sanctifier, voilà les trois pouvoirs transmis à l'Église, je les répète. Donc, pouvoir d'enseignement, pouvoir de gouvernement et pouvoir de sanctification. Eh bien, rappelez-vous bien de cela, c'est fondamental, ces trois pouvoirs sont liés, et le pouvoir d'enseigner et le pouvoir de gouverner est lié au pouvoir de sanctifier. C'est-à-dire que, je m'explique, le pouvoir de gouverner et d'enseigner est lié au sacrement de l'ordre, qui fait que quelqu'un devient prêtre ou évêque. Eh bien, parce qu'il est prêtre ou évêque, il a du coup ce pouvoir d'enseigner et de gouverner. Attention, ce pouvoir de gouverner et d'enseigner, il les reçoit de la part de l'Église. Mais je veux simplement vous faire comprendre que si un laïc un jour veut se proposer, comme c'est arrivé, pour prendre la place d'un siège épiscopal, par exemple, un laïc, pour gouverner et enseigner, s'il n'a pas le sacrement de l'ordre, il ne peut pas. Parce que les trois sont bien liés. C'est trois pouvoirs. Bon. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que, vous voyez, un prêtre ou un évêque reçoit le sacrement de l'ordre, le pouvoir de sanctifier, il a ce pouvoir pour l'éternité. Le sacrement de l'ordre, c'est pour l'éternité. En revanche, le pouvoir de gouverner et d'enseigner, ça, il les reçoit de l'Église. Il les reçoit de l'Église et il peut ne plus les avoir. Prenez un évêque d'un diocèse, il reçoit de la part du pape le fait de gouverner et d'enseigner ce diocèse. Quand il part à la retraite, par exemple, il n'a plus ce pouvoir d'enseigner et de gouverner son diocèse. Mais il garde bien, évidemment, le troisième pouvoir qui est celui de sanctifier par son sacerdoce. Vous voyez ? Bon. Les deux premiers, enseigner et gouverner, dépendent donc de ce qu'on appelle la juridiction. Voilà. Petite distinction. Alors, pour finir, parlons un petit peu... Enfin, pour finir, non, parce que... L'infaillibilité du pape, justement. Rapidement, mais c'est important. Est-ce que le pape est infaillible? Eh bien, la réponse est non. Sauf dans des circonstances très particulières. Dans le catéchisme des petits, on dit oui, le pape est infaillible si il respecte ces trois conditions. Eh bien, c'est tellement exceptionnel qu'il vaut mieux dire le pape n'est pas infaillible, sauf dans telle ou telle condition. Ça permet de mieux de remettre le pape à sa place, de l'aimer filialement et de ne pas faire d'erreur là-dessus. Il y a quatre conditions de l'infaillibilité. Quelques exemples d'ailleurs du fait que l'infaillibilité est rarement utilisée. Le pape Saint Pie X, vous voyez, n'a jamais utilisé son infaillibilité. Oui, jamais. Il a rappelé les dogmes et tout, mais Pie XII l'a utilisé deux fois. Pour redire et confirmer pour le sacrement de l'ordre la forme et la matière, bon voilà, c'est infaillible, et aussi le dogme de l'Assomption en 1950, infaillible, deux fois. Et Jean-Paul II l'a utilisé une fois, le jour où il a affirmé cette impossibilité aux femmes d'être ordonnées prêtres. Et il a bien dit, cela est définitif et point barre, on n'y reviendra pas, c'est infaillible. Il l'a utilisé une fois. Bon. Benoît XVI, peut-être qu'il n'a jamais... Bon, donc, vous voyez, c'est rare. Et c'est bien de se le dire pour répondre à la question. Est-ce que le pape est infaillible? Eh bien, non, sauf dans certaines conditions. Avant de vous les donner, comprenons bien ce qu'est cette infaillibilité. Elle vient de l'Église. Du coup, elle vient de Dieu. Elle est garantie par le bon Dieu, bien sûr. Le bon Dieu protège l'Église de se tromper dans deux domaines, ces deux domaines qui amènent au ciel, c'est-à-dire notre foi et nos actes, ce qu'on appelle la foi et les mœurs, la foi et la morale. Donc l'Église ne peut pas se tromper dans le domaine de la foi et dans le domaine de la morale. Dans tout le reste, l'Église peut se tromper. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui faire confiance dans tout le reste. Il faut un respect filial envers donc le Saint-Père. Deux organes de l'infaillibilité, c'est-à-dire qui peut être infaillible, le pape seul, ou alors l'ensemble des évêques moralement unis autour du pape. D'accord ? Voilà. Voyons les quatre conditions rapidement de l'infaillibilité. Tout d'abord, le pape doit parler, donc prenez une phrase du Saint-Père, et il faut l'analyser en fonction de ces quatre conditions. Premièrement, il faut que le pape parle comme pape, c'est-à-dire comme pasteur de toute l'Église catholique. S'il écrit à sa cousine pour lui expliquer la recette de son dernier gâteau au chocolat, il ne parle pas en tant que pape, vous voyez. Il parle en tant que cousin de sa cousine. Donc il peut se tromper. Et même s'il écrit à sa cousine en lui disant « Oui, tu sais, la Sainte Eucharistie, c'est un peu... c'est une invention, etc. » C'est une hérésie. Mais il ne l'a fait pas en tant que pape. Il l'a fait en tant que cousin de sa cousine. Je vous dis ça parce qu'il y a des papes dans l'histoire, par exemple, qui ont soutenu, c'est pas l'arianisme, ou si je crois que c'est, enfin, ou une hérésie, excusez-moi, mais et en tant que, non pas en tant que pape, mais en tant qu'homme normal, disons, eh bien, ce pape s'est trompé. Mais il n'a pas parlé en tant que pape. Première condition, le pape doit parler comme pape, comme pasteur suprême. Deuxième condition, il doit s'adresser à toute l'Église catholique, et non pas à un diocèse, et non pas à une société quelconque. C'est l'Église universelle. Troisième condition, il doit parler donc de la foi et des mœurs. Ce sont les deux choses indispensables pour aller au ciel. C'est les deux domaines dans lesquels il peut exercer son infaillibilité. Et quatrième condition, c'est qu'il ait l'intention d'obliger l'Église à croire à ce qu'il vient de dire. L'intention d'obliger. Pour ça, il y a des expressions. Dans sa tête, vous voyez, il doit dire « Chers fidèles catholiques de l'Église universelle, en tant que pape, dans le domaine de la foi et de la morale, vous devez penser ça. » Je vous cite Jean-Paul II, cette question des femmes qui ne peuvent jamais être ordonnées prêtres. « Ce point de doctrine doit être tenu définitivement par l'Église. » C'est clair. Ce point doit être tenu. Eh bien, quand vous gardez ces quatre conditions, vous comprenez que l'infaillibilité est quand même assez rare. Voilà. Pour finir, quand même, je voudrais vous laisser sur ce point qui me semble très 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 important et à méditer, pour le coup, c'est très frais. C'est très... ça donne un peu l'espérance. Ce qu'on appelle les notes de l'Église. Qu'est-ce que c'est que ces notes de l'Église ? Comprenez que notre Seigneur a fondé une seule Église catholique et que depuis 2000 ans, eh bien, plein d'autres sociétés se considèrent comme l'Église de Jésus. Et donc, comment repérer la vraie société voulue par Jésus? Il faut donc, analyser les cartes d'identité de chacune de ces sociétés pour voir si elles correspondent à ce que notre Seigneur a voulu dans son évangile. Pour cela, il faut prendre un peu de hauteur, un peu de recul, pour justement contempler l'Église que nous disons catholique. Ce sont vraiment quatre marques, les notes, c'est quatre marques, quatre caractéristiques, justement, qui identifient de manière visible, c'est très concret, l'Église voulue par notre Seigneur. Ces quatre notes, vous le savez, sont contenues dans le credo, hein, je crois, en l'Église une, catholique, apostolique et catholique. Qu'est-ce que je veux dire ? Une sainte, catholique et apostolique, merci. D'accord, les quatre notes. Alors rapidement, l'Église une, l'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'il y a une seule Église, une seule société, et en plus de ça, qu'elle est unie, que les membres sont unis entre eux. Vous voyez, deux choses. Une seule société, et à l'intérieur de cette société, il y a union. Unité par sa doctrine, hein, le principe de l'unité, donc c'est le pape et le magistère qui transmet la doctrine, une seule doctrine, un seul credo. Unité par ses sacrements aussi, tous les catholiques reconnaissent les sept sacrements. Unité aussi par son chef, il n'y a qu'un seul chef, un seul pape depuis 2000 ans. Deuxième note, la sainteté. La sainteté, c'est la note la plus caractéristique de l'Église. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez compris, c'est le but de l'Église de fabriquer des saints, de constituer, de sculpter des saints. C'est son premier but, puisque le but, on l'a vu, la cause finale, c'est la vie éternelle. Et donc la sainteté, c'est ce qui la caractérise le plus. Alors il faut prendre beaucoup de recul pour voir que l'Église, oui, est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est que son travail principal est de produire de la sainteté, et cela depuis 2000 ans, et l'histoire nous le montre. Sainteté par son fondateur, notre Seigneur. Sainteté par sa doctrine. Je vous rappelle que l'Église catholique est la seule à conserver et protéger ce qu'on appelle la loi naturelle, et cela depuis 2000 ans. Je vous donne un tout petit exemple. Tout ce qui est unicité et indissolubilité du mariage, c'est inscrit dans notre nature. Eh bien, il n'y a que l'Église catholique qui la protège. Même l'Église orthodoxe admet deux échecs, et puis après, un troisième. Le troisième, là, vous ne pourrez plus vous séparer. Oui. C'est, dans l'Église orthodoxe, il n'y a plus cette unité, cette indissolubilité. Un petit exemple. Donc, l'Église défend le droit naturel. Voilà donc pour la sainteté. Et vraiment, considérons notre Église comme sainte. Non pas par ses membres, nous les premiers, parce que nous sommes des petits saints, mais pas les saints du ciel, mais de par ce fondateur, sa doctrine, et le fait qu'elle fait des saints, elle produit des saints. Troisième note, la catholicité, qui veut dire en grec le côté universel. Même le jour de la Pentecôte, l'Église était universelle, dès le début. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique ne dépend d'aucune nation, ne dépend d'aucune culture, d'aucun État, d'aucun président, rien du tout, ne dépend d'aucun chef, sauf de notre Seigneur. Elle est totalement indépendante. Et c'est pour ça qu'elle peut être universelle. Comme on dit, elle appartient à personne, donc elle est à tout le monde. Vous voyez ? Elle est universelle. Et c'est pour cela que les apôtres, et encore aujourd'hui, l'Église cherche à se répandre dans tous les moindres recoins du monde. Et c'est normal parce que tout homme a droit à la vérité. Et la vérité est notre Seigneur. Enfin, la quatrième note, l'apostolicité, c'est le fait de se rattacher donc à son fondateur, notre Seigneur, mais se rattacher à Jésus par ses apôtres. Et il y a un lien de filiation depuis les apôtres, tous les évêques. Je crois qu'on peut, tout prêtre, tout évêque peut retrouver son lien jusqu'à tel apôtre. Ce serait intéressant. Comme arbre généalogique jusqu'à notre Seigneur, jusqu'à Saint-Pierre. Alors en conclusion, et j'en aurai fini, comprenons que cette étude, cette contemplation de l'Église catholique doit nous aider déjà à l'aimer, à la respecter, à être fier de faire partie de l'Église catholique. Il faut en être fier et de pouvoir rayonner de cette fierté, de faire partie de ce corps mystique de Jésus, et que Jésus continue à sauver les âmes, à sanctifier par cette société. Et je vous laisserai avec cette petite phrase de Bernanos, je vous ai mis la grosse citation, mais il dit « L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais elle a besoin de saints. » Voilà, elle a besoin de saints. Et non pas de révolutionnaires, comme a voulu faire Luther, mais de saints, comme a voulu faire saint François d'Assise. Et c'est lui qui a réformé l'Église, et non pas Luther. Bon. Alors, prions bien pour l'Église, pour l'unité de l'Église, et aussi soyons apôtres, tout le monde, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau, comme l'a dit notre Seigneur. Voilà, c'est rapide, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais à méditer. Nous allons finir par la prière. Oui, attends. Sur l'infaillibilité, oui.
Vous dites que Jean-Paul II a dit que les femmes ne pouvaient pas être ordonnées.